Radio Prague, les informations.
La République tchèque aurait expulsé 2 espions russes. Le nombre de visiteurs séjournant en hôtel a baissé de 8,5% pendant la première moitié de 2009 et l'Allemagne souhaite acheter son ambassade à Prague. D'après le serveur idines.cz, le représentant de l'attaché militaire à l'ambassade de Russie aurait été expulsé de République tchèque. L'autre diplomate aurait été incité à ne pas rentrer de ses congés. D'après le serveur, les renseignements militaires tchèques soupçonneraient ces deux hommes de travailler pour les services secrets russes. Cette information n'a pas été encore confirmée officiellement du côté tchèque. Du côté russe, elle aurait été indirectement. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aurait confié à l'agent de presse russe Itartas que cette expulsion était, je cite, une nouvelle provocation. Le nombre de visiteurs séjournant dans les hôtels tchèques a baissé de 8,5% pendant la première moitié de 2009 par rapport à la même période l'année précédente. D'après le bureau des statistiques tchèques, 5,37 millions de personnes ont ainsi séjourné dans les hôtels et autres moyens d'hébergement dans le pays. Le chef de l'association tchèque des agences de voyage, William Sivek, estime qu'il s'agit du pire résultat en 20 ans. Il prévoit que des dizaines d'hôtels ferment leurs portes dans les mois à venir. L'Allemagne souhaite acheter les locaux de son ambassade à Prague, d'où le ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher avait annoncé aux Allemands de l'Est réfugiés à Prague en septembre 89 l'ouverture de la frontière avec la RFA. Le projet d'acquérir le palais Lobkowitz, occupé par l'ambassade allemande, date du milieu des années 90. Depuis lors, nous sommes en négociation intensive avec les autorités tchèques qui se concrétisent, a indiqué mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand. Un expert indépendant sera chargé d'évaluer la valeur du palais et de trouver un bâtiment d'une valeur à peu près équivalente dans le patrimoine fédéral à Berlin et qui pourrait servir de monnaie d'échange. La petite fille de 2 ans qui a été grièvement brûlée suite à l'incendie de la maison d'une famille rome à Vidkov devra subir encore 5 opérations. C'est ce qu'ont déclaré les médecins de l'hôpital universitaire d'Ostrava où la fille était internée depuis 4 mois. D'après eux, ces traitements pourraient encore durer plusieurs années et ne signifient en rien qu'elle soit tirée d'affaire. Les médecins ont recours à des greffes de peau artificielles pour soigner la petite atteinte sur 80% du corps. La semaine dernière, 4 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de cette maison. Depuis ce lundi, l'aéroport de Prague-Rosenier propose le Wi-Fi à ses clients. La connexion de base est gratuite, mais la version plus rapide de l'Internet sans fil est payante. L'an dernier, l'aéroport de Prague avait mené une enquête auprès des voyageurs qui avaient démontré que la connexion au Wi-Fi était le service qui manquait le plus dans ces locaux. Jusqu'à présent, les voyageurs pouvaient s'y connecter uniquement dans les lieux de restauration. On finit par la météo. Mardi, jour de fête des Helena, le ciel en République tchèque sera clair à variable et les températures diurnes varieront de 23 à 27 degrés. Un temps estival qui devrait durer encore pendant toute la semaine. C'est la fin du journal de Radio Prague présenté par Anna Kubishta. Tout de suite, la suite avec Anne-Claire Veluire.
Bonjour, dans l'actualité de ce tout début de semaine, nous reviendrons sur l'affaire de Vidkov et l'inculpation de 4 extrémistes pour meurtre à caractère raciste grâce à laquelle le ministre de l'Intérieur espère accélérer un processus visant à interdire définitivement le principal parti d'extrême droite tchèque. Nous passerons ensuite à la culture avec la remise des prix à Carlo Vivari du Fresh Film Fest, le festival des films étudiants. Nous vous proposerons enfin, après un premier aperçu vendredi dernier, le premier volet d'une série de rencontres entre Jean-Baptiste Durand et des étudiants de l'école d'été d'Etuslav qui se tient à Prague tout ce mois d'août. Restez à l'écoute sur les ondes de Radio Prague. Avec l'inculpation de 4 extrémistes pour tentative d'assassinat à caractère raciste, mercredi 12 août, le ministre de l'Intérieur Martin Pezina espère que cette affaire facilitera la dissolution d'une des principales formations d'extrême droite du pays, le Parti ouvrier. Il a par ailleurs critiqué son prédécesseur Ivan Langer à ce sujet, mais il n'a pas pour autant dévoilé les éléments qui permettraient d'interdire ce parti.
Prostě proti extrémistům tady několik let nešlo zasahovat a teď jde.
Simplement, pendant de nombreuses années, on n'arrivait pas à frapper les extrémistes et maintenant, ça marche. C'est avec ces mots que le ministre de l'Intérieur, Martin Pétina, a exprimé sa volonté de lutter plus activement contre les partis d'extrême droite et son optimisme quant à la réussite de l'entreprise. Il estime que l'affaire de Witkoff, où la maison d'une famille rome avait été incendiée et qui a abouti la semaine dernière à l'inculpation de 4 personnes, va permettre plus facilement à la justice d'interdire le parti ouvrier. Le politologue Zdeněk Borgil est spécialiste des partis d'extrême droite en République tchèque. Il reconnaît les avancées en matière de lutte contre l'extrémisme, mais reste plus prudent sur les possibilités de dissolution d'un tel parti.
Je pense que ce n'est pas aussi facile que le dit M. Pétina. Naturellement, l'inimitié de la majorité de la société à l'égard du parti ouvrier se creuse, mais le problème est que même s'il y avait parmi les auteurs de cet acte terroriste des membres du parti ouvrier, cela ne veut pas dire que le parti ouvrier sera interdit ou dissolu par la Cour suprême. Parce que la Cour suprême cherche aussi à savoir si le criminel agit seul ou en rapport avec le programme ou les activités d'un parti politique concret. Si les partis politiques devaient se dissoudre parce que certains de leurs membres étaient condamnés par la justice, on devrait dissoudre tous les partis politiques parlementaires de la République tchèque. Dans chacun d'entre eux siègent des gens qui ont été condamnés, pour la plupart pour des questions immobilières, et même si un membre d'un parti est un voleur, cela ne veut pas dire que le parti est un parti de voleurs et qu'il doit être interdit. Je pense que Monsieur le ministre veut faire comprendre que l'on va donner plus d'attention aux extrémistes, non seulement du côté de la police, mais surtout du côté judiciaire, et plus que ce ne l'était auparavant.
L'ancien ministre de l'Intérieur, Ivan Langer, s'est défendu en soutenant que le gouvernement actuel ne fait que récolter les fruits semés sous son ministère. Le parti ouvrier entend de son côté porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. Selon Zdeněk Borgil, Martin Pétina dispose de nouvelles informations, mais a décidé de ne pas les divulguer pour l'instant. Il pense que la plainte du parti ouvrier a un objectif électoral, mais qu'elle n'a aucune chance de succès grâce aux précautions du ministre visant à n'établir pour l'instant aucune connexion entre les extrémistes inculpés et le parti d'extrême droite. Le festival des cinéastes de demain, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier le festival Fresh Film Fest qui a pris fin dimanche dans la ville d'Eau de Karlovy Vary. Une occasion pour jeter avec Václav Richter un coup d'œil sur le palmarès de cette rencontre de cinéastes débutants qui n'est pas qu'un festival d'étudiants d'école de cinéma.
Le Fresh Film Fest n'a duré que 5 jours et pourtant il a présenté à son public plus de 200 films dans 9 salles. 50 films ont été sélectionnés pour la compétition dans 5 catégories différentes. Définir ces catégories a été une tâche difficile, mais aussi une grande innovation de la 6e édition de ce festival qui se propose avant tout de découvrir de nouveaux talents. Jakub Feldsmann, directeur du programme du festival, explique pourquoi la principale section internationale des films confondait fiction et réalité.
Nous avons constaté que les films les plus intéressants étaient ceux qui se situaient à la limite entre les genres. D'une part, ce sont les films de fiction qui travaillent avec les acteurs non professionnels, et d'autre part, les films documentaires qui sont d'une certaine façon mis en scène et dont la réalité y est tellement modifiée par les réalisateurs qu'on en vient à se demander où sont les limites du documentarisme total.
C'est le film Skrapsar, Balafre, de la jeune réalisatrice suédoise Gabriella Pichler, une œuvre située à la limite entre la fiction et le documentaire, qui a remporté le grand prix du festival. Le jury a apprécié le fait que la réalisatrice ait su trouver de la poésie et de l'humour dans la vie souvent dure et désagréable de ses héros. Selon l'un des membres du jury, le comédien et metteur en scène Jiří Ornest, les jurés ont aussi pris en considération un critère spécial.
Nous avons choisi un critère commun pour juger les films. Nous nous sommes tout simplement demandé si nous aimerions voir un autre film du même réalisateur. Et dans ce cas-ci, il était tout à fait évident que ce film nous en donnait envie.
Le prix spécial du jury a été décerné au réalisateur hongrois Peter Seiler pour son film intitulé « Introduction dans la linguistique générale », œuvre qui démontre, d'après le jury, que même l'auteur qui choisit une approche intellectuelle de son sujet peut créer un film ironique et plein d'humour. Et le prix dans la catégorie Fresh Generation a été attribué au film canadien Truffle du réalisateur Kim Nguyen, un conte sombre et corrosif qui jette un regard désabusé sur le fonctionnement des mécanismes économiques et leur influence sur nos vies. Dans le cadre du festival, les organisateurs ont aussi présenté une rétrospective des films de Peter Lebel. Pour la majorité des spectateurs, c'était une révélation, car cet artiste était pour eux avant tout un homme de théâtre. En effet, Peter Lebel, qui a mis fin à ses jours en 1999 à l'âge de 34 ans, a été, dans les années 1980, l'un des metteurs en scène tchèques les plus inspirés. Sa rétrospective au Fresh Film Fest a démontré qu'il a aussi été un cinéaste talentueux et original.
Chaque année, l'Université Charles accueille en son sein des dizaines de francophones venus étudier le tchèque pendant un mois. C'est l'école d'été d'études slaves et ce sont chaque jour des cours intensifs de langue et de culture tchèque pour débutants, intermédiaires ou avancés. Tous viennent pour différentes raisons et cette semaine, tous les jours, nous écouterons leurs témoignages recueillis par Jean-Baptiste Durand. Avec pour commencer aujourd'hui un entretien avec Marie-France Louis, elle est retraitée et vit à Nancy. Sa motivation est sans faille pour des raisons très personnelles.
Bonjour, je viens de Nancy. J'ai toujours rêvé d'apprendre la langue tchèque, pour dire la vérité, parce que ma mère était tchèque. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer un cours de tchèque à Nancy, à l'université. Et j'étudie le tchèque depuis 4-5 ans, depuis 2004 en fait. C'est une grande aventure pour moi.
Votre mère était tchèque, elle parlait tchèque à la maison ou...
Non, ma mère ne parlait pas le tchèque, elle ne nous a pas appris cette langue parce que c'était certainement trop compliqué pour elle de le faire. Par contre, ma grand-mère, qui était tchèque aussi, et qui ne parlait pas un mot de français, est venue en France pendant 3 ans, et nous avons entendu maman parler avec elle, et petit à petit, nous avons quand même réussi à dire quelques phrases, quelques petites choses d'enfant. Et de là est parti ce grand désir de savoir vraiment la langue tchèque.
Est-ce que vous trouvez ça difficile ou pas ? Comment ça se
passe ? Oui, c'est une langue difficile. Sincèrement, la grammaire est difficile. Ce qui est difficile, c'est de se souvenir des déclinaisons, des verbes perfectifs, imperfectifs et plein de choses. Mais c'est aussi une langue, moi, qui me ravit, qui est d'une beauté magnifique. Pour moi aussi, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Je revis à travers certains mots qui me reviennent. Je revis des moments de mon enfance, des mots de ma grand-mère que je croyais avoir oubliés. Et en même temps, c'est extraordinaire parce que petit à petit, année après année, on arrive à s'exprimer en tchèque, à comprendre ce qu'on nous dit. Surtout ça, c'est plus facile de comprendre que de parler.
Donc aujourd'hui, vous êtes venu à Prague pendant un mois pour apprendre le tchèque. Vous vous sentez déjà capable de discuter dans la rue de...
Oh oui.
Dites-moi un peu comment vous vous sentez avec le tchèque.
Moi, avec le tchèque, je sais que je fais plein de fautes, évidemment, parce que c'est pas possible autrement. Mais je parle avec les gens dans le tramway, à l'arrêt du tram, dans le métro. Enfin, c'est formidable. Quelquefois, les gens me disent « Ah, vous parlez bien ». Ils sympathisent quand ils voient qu'on apprend leur langue, parce que c'est bien connu que c'est quand même une langue assez difficile.
Et enfin, dernière question, dans l'avenir, est-ce que vous envisagez peut-être de venir un petit peu plus souvent, un petit peu plus longtemps, voire rester, vivre à Prague ?
Ça, c'est sûr que j'y pense, oui. Venir plus souvent, oui, c'est certain. Vivre à Prague ou vivre en République tchèque, je ne sais pas encore. C'est vrai que parfois, on a cette tentation. Mais c'est peut-être loin de la réalité, hein, parce que s'exiler, c'est un peu un exil. Moi, je ne suis pas totalement exilée parce que ma mère était tchèque. Je ne sais pas. Enfin, je reviendrai, c'est sûr.
C'était l'actualité en République tchèque de ce lundi 17 août. Merci d'être resté avec nous. Dans la suite de notre programme, vous pourrez écouter Guillaume Narguet et sa rubrique sportive. Aujourd'hui, il vous propose de l'athlétisme et de la course moto.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive au sommaire de laquelle figure pour cette fois sport automobile et athlétisme. Il sera d'abord question du Grand Prix Moto de République Tchèque disputé le week-end dernier devant le nombreux public de Brno en Moravie. Un Grand Prix dont la superstar a été une nouvelle fois le pilote italien Valentino Rossi, vainqueur dans la catégorie reine des Moto Grand Prix. Et puis en athlétisme, nous évoquerons les chances tchèques de médailles aux championnats du monde qui ont débuté samedi à Berlin. Barbora Špotáková au lancer du javelot et Roman Scheberle au décathlon s'efforceront de conserver leur titre acquis à Osaka il y a 2 ans. Avant le départ, Valentino Rossi avait affirmé que le circuit Masaryk était l'un de ses préférés et qu'il appréciait tout particulièrement le Grand Prix de République tchèque. Et le pilote italien n'a certainement pas changé d'avis à l'issue de la course dimanche à Brno, au lieu de son premier succès en championnat du monde de vitesse moto en 1996. The Doctor s'est imposé pour la 5e fois et a signé la 102e victoire de sa carrière. Surtout en franchissant au guidon de sa Yamaha la ligne d'arrivée avec 11 secondes d'avance sur l'Espagnol Daniel Petrosa, l'octuple champion du monde a fait un grand pas vers l'obtention d'un 9e titre, toutes catégories confondues. Profitant en outre de l'abandon sur chute de son coéquipier espagnol Jorge Lorenzo et de l'absence de l'Australien Casey Stoner, ses deux premiers poursuivants, Valentino Rossi a porté à 50 points son avance en tête du classement général du championnat dans la catégorie des motos Grand Prix. Une avance plus que confortable à 6 courses seulement de la fin de la saison qui semble lui assurer un 7e titre de champion du monde dans la catégorie reine. Dans la catégorie inférieure des 250 cm3, la course a également été une affaire italienne, puisque c'est le champion du monde en titre Marco Simoncelli sur Gilera qui s'est imposé avec 684 millièmes de seconde d'avance sur son compatriote Mattia Passini à l'issue d'un chassé croisé qui a fait rugir de plaisir les 140 000 spectateurs présents dans les tribunes dimanche. Au classement du championnat, c'est toutefois le japonais Hiroshi Aoyama sur Honda, 4e à Brno, qui conserve la place de leader. Côté tchèque, la meilleure performance est à mettre au crédit de Lukáš Pešek, 12e sur sa moto Aprilia, à 30 secondes du vainqueur du jour. Diminué par une angine, Lukáš Pešek était surtout satisfait d'être arrivé au bout des 20 tours de course.
C'est certain, c'est une 12e place qui a une valeur particulière du fait qu'elle a été obtenue dans des conditions tout à fait différentes que d'ordinaire. Compte tenu de mon état de santé, je suis même très satisfait de mon classement. À la mi-course, j'ai vu qu'il y avait un trou derrière moi, ce qui m'a permis de ne plus prendre trop de risques. J'en avais plein les bottes et j'ai alors préféré assurer pour ne pas chuter et terminer dans les points.
Déception en revanche pour le 2e pilote tchèque engagé dans la catégorie des 250 cm3, victime d'une chute suite à un accrochage avec le Suisse Thomas Lüthi dans le premier virage après le départ. Karel Abraham a été contraint à l'abandon dès le premier tour. Une contre-performance qui n'a toutefois pas gâché la bonne ambiance qui a régné dans les gradins de Brno avec 218 000 spectateurs en l'espace de 3 jours, qualifications et courses comprises, soit la 3e plus grosse affluence de toute son histoire. Le Grand Prix Moto de République Tchèque a une nouvelle fois prouvé qu'il était le plus important événement sportif organisé chaque année dans le pays. En athlétisme, les championnats du monde ont démarré à Berlin samedi, des mondiaux qui ont débuté en fanfare avec le nouveau record du monde du 100 mètres d'Usain Bolt dimanche. Pour les Tchèques, le premier moment fort est programmé mardi soir avec la finale du lancer du javelot féminin. Championne olympique et du monde en titre, Barbora Špotáková visera une nouvelle victoire pour confirmer sa suprématie sur la discipline. Samedi, la Tchèque s'est qualifiée dès son premier essai à 63 mètres 27. Pour autant, Barbora Špotáková était loin d'être satisfaite. On l'écoute.
Tout s'est exactement passé comme je l'avais prévu, espéré, mais je me suis sentie très mal aujourd'hui. Je suis contente de m'être qualifiée dès mon premier lancer, car c'était l'ombre de moi-même qui était sur la piste. J'espère que ça irait mieux mardi pour la finale, sinon je n'aurais aucune chance de gagner. Je me console en me disant que même avec un mauvais lancer comme celui d'aujourd'hui, je me suis qualifiée pour la finale, mais pour le reste, il n'y a vraiment pas de quoi sauter au plafond.
Logiquement favorite, Barbora Shpotakova aura toutefois à faire face à une forte concurrence, et notamment à celle de la Russe Marie Abamukova, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année lors des qualifications, avec un lancer à 68,92 m. Pour le reste, les autres espoirs tchèques de médailles reposeront essentiellement sur les épaules du décathlonien Roman Scheberle. Dans le stade olympique de Berlin, le Tchèque voudra lui aussi conserver son titre, même si la tâche ne s'annonce pas simple, après une première partie de saison plutôt moyenne. Scheberle reste l'homme des grands rendez-vous, mais comme le rappelle Václav Fischer, l'entraîneur de l'équipe de République tchèque, toute médaille obtenue lors de ces mondiaux sera considérée comme un succès.
Je serai satisfait de chaque médaille, quel que soit le métal, car ce sont les championnats du monde et la concurrence y est incroyablement relevée. Le niveau de compétition n'a absolument rien à voir avec celui d'un meeting. Tous les meilleurs sont présents et ont fait des mondiaux, le principal objectif de leur saison. C'est pourquoi toute place sur le podium sera un excellent résultat, et si on pouvait avoir deux médailles, je serais vraiment très satisfait.
Enfin, outre Shpotakova et Scheberle, les Tchèques suivront encore d'un œil attentif les performances de Jaroslav Baba au saut en hauteur. Si lui aussi parvenait à monter sur le podium, le bilan serait alors aussi bon qu'à l'issue des derniers mondiaux d'Osaka il y a 2 ans, lorsque les Tchèques étaient rentrés au pays avec 2 médailles d'or et 1 d'argent.
Pour terminer notre émission, nous passons à la douce rubrique musicale avec Yarka Gisubilova. Yarka nous parle cette semaine d'un festival de cornemuse qui s'est déroulé le week-end dernier en République tchèque.
Yarka Gisubelova.
La tradition de la cornemuse, un instrument ancien, témoin de la culture celte dans notre pays, perdure dans la région de Chodzko, dans l'ouest de la Bohême. Cette année, sa musique stridente a envahi pour la 54e fois déjà les rues et les places publiques de Domažlice, chef-lieu de la région qui accueille tous les ans les festivités de Chodzko. Pendant 4 jours, du 14 au 16 août, la ville a connu l'invasion de maîtres sonneurs venus de Bohême, de Moravie et de plusieurs pays d'Europe et d'Outre-mer, de Sicile, de Grande-Bretagne, de Turquie, d'Estonie et des États-Unis. En total, une 30aine d'ensembles de cornemuses applaudis par près de 80 000 visiteurs, dont le président Václav Klaus. Les festivités de Chodzko se déroulent à Domažlice depuis 1955, toujours le premier week-end après le 10 août, fête de la Saint-Laurent, à laquelle étaient dédiées ces festivités auparavant. Cette tradition de la cornemuse s'est maintenue dans l'ouest de la Bohême grâce notamment au musicologue Josef Rejny, grand passionné de cet instrument qui a collectionné plus d'un millier de notations anciennes et qui est lui-même auteur et interprète de cette musique.
Les festivités de Khotsko ont refermé leurs portes dimanche soir avec un défilé, un grand concert qui ont réuni tous les ensembles et solistes présents cette année à Domažlice, ville jumelée à la ville bavaroise tout proche de Furt-Immwald, mais aussi à la commune française de Ludre, près de Nancy.
Merci d'avoir été à l'écoute des programmes de Radio Prague. Retrouvez toute l'actualité tchèque en français sur www.radio.cz/fr et surtout, nous vous attendons demain, même heure, même fréquence, na sledanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.